Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Pour ce 49e épisode, j'ai discuté avec Cassandre Milius, fondatrice de The Good Habits, l'application communautaire d'inspiration et de partage d'habitudes éco-responsables pour celles et ceux qui veulent prendre plaisir à consommer moins et mieux. Diplômée d'un master entrepreneur à Grenoble-EM, Cassandre vit plusieurs expériences en start-up et pôle innovation de grands groupes. Créative et passionnée par le design, elle se lance en 2019 dans un master innovation et design à Strat École de Design pour se spécialiser aussi bien dans l'UX design, donc l'expérience utilisateur, et l'UI design, l'interface utilisateur. C'est dans le cadre de cette formation qu'elle lance son projet The Good Habits qui remportera notamment le coup de cœur du jury. Elle prend conscience du potentiel de son projet étudiant et décide de le transformer en véritable projet entrepreneurial. Sa mission, permettre à chacun de s'épanouir dans le respect d'un monde plus durable. Dans ce 49e épisode, Cassandre vous raconte notamment pourquoi a-t-elle créé The Good Habits, les grandes étapes du projet, de l'identification du problème en janvier 2020 au lancement du premier prototype, comment a-t-elle développé l'application toute seule grâce au no-code, toute l'histoire de sa campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank qui s'est terminée avec plus de 158% de l'objectif, et le lancement de la bêta, déjà plus de 800 inscrits. J'espère que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si le podcast vous plaît, évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode et Serial Entrepreneur à votre réseau, en n'hésitant pas à me taguer et de me rejoindre sur Instagram, @serialentrepreneur, avec le tiré du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Cassandre.
Salut.
Alors, tu as fondé The Good Habits, donc c'est une app notamment liée à l'éco-responsabilité. On en parlera bien évidemment dans cet épisode. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le parcours des entrepreneurs. Et ce que j'aimerais savoir, c'est dans quel environnement as-tu grandi ?
Dans quel environnement j'ai grandi ? Donc moi, j'ai grandi dans le sud de la France, à Nice. Donc je suis une pure niçoise, pur produit du sud. Et j'ai eu une enfance classique, vraiment, enfin, ma scolarité, je l'ai faite dans la même ville. J'ai fait un bac S, une prépa. Et ensuite, je suis partie en école de commerce, je suis allée à Grenoble, donc ce qui était le nord pour moi.
Et c'est quoi ton parcours avant de lancer The Good Habits ?
Alors, mon parcours, donc là, comme je te l'ai dit, voilà, j'ai fait un lycée option scientifique. Après, j'ai donc prépa HEC. Ensuite, j'ai fait l'école de commerce de Grenoble, donc Grenoble EM, où j'ai fait un master entrepreneur là-bas. Je m'étais aussi spécialisée, j'étais partie à Vancouver aussi, où je m'étais spécialisée en innovation, entrepreneuriat. Bon, après, entre ce qu'on apprend dans les études sur l'entrepreneuriat et la vraie vie, on n'est pas vraiment sur le même, sur les mêmes choses. J'avais fait mes stages en césure, du coup, toujours dans le domaine start-up. J'avais commencé en start-up, d'ailleurs. Ensuite, en lab aussi, d'innovation qui rassemblait des start-up. Et après, je suis allée en grand groupe, mais toujours liée aux start-up, puisque j'étais en open innovation chez SNCF Digital. Donc, on était vraiment en relation avec ces entreprises. Et j'ai travaillé un petit peu chez Canal+, en expérience client. Mon premier CDI, c'était chez Accenture. Donc, en fait, chez Avanat, qui est la joint venture entre Accenture et Microsoft.
OK.
Voilà.
De toutes ces expériences, c'est laquelle qui t'a un peu fait un déclic de dire j'ai envie de me lancer à un moment donné, tu vois ?
Alors, je dirais que j'ai été ancrée dès le départ, puisque ma première expérience en entreprise, c'était en start-up. Donc, pour moi, c'était un petit peu comme ça que devait être une entreprise, tu vois, et j'ai goûté cet univers-là. Où, après, j'ai un petit peu, quand je suis allée en grand groupe, j'ai jamais oublié, parce qu'en fait, je retrouvais pas dans les grands groupes le sens que j'avais en mode je me bats pour une mission, pour un truc qui est plus grand que moi-même. Ça, je le retrouvais pas dans les entreprises. Donc voilà, disons que c'est ma première expérience qui m'a marquée. Et en fait, ma deuxième expérience qui m'a marquée, c'est qu'en fait, mon CDI, je suis restée que 6 mois, mon premier CDI. Okay. et en fait, Je me suis dit, en fait, ça me plaisait pas. Le matin, je me réveillais pas avec la motivation d'aller travailler. Et je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire toute ma vie? Et donc, je me suis posé des questions. Et je me suis dit, en fait, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était créatif quand j'étais petite. Voilà, tous les arts créatifs, je faisais de la poterie, je faisais de la peinture. Tu vois, mes agendas du collège, je passais 2 mois l'été à les customiser pour qu'ils soient uniques, enfin, qu'il y ait des petits trucs comme ça. Et en fait, je pensais pas que ça pouvait être un métier. Tu vois, parce qu'en école de commerce, tu fais de la finance, tu fais du marketing, mais en soi, la créativité, c'est pas vraiment, on t'apprend pas de, t'as pas de métier en tête pour ça. Et en fait, moi, chez Accenture, je travaillais à côté de l'équipe UX Design, UX UI Design. Et en fait, à partir de là, je me suis un petit peu intéressée à ce métier-là. Je me suis dit, OK, peut-être que ça peut être intéressant. Et du coup, j'ai regardé un petit peu toutes les formations qu'il y avait. Il y avait des bootcamps à Paris, donc qui sont assez connus, où genre, en gros, pendant 3 mois, tu apprends plein de choses sur le UX Design. Ou alors, il y avait autre option, c'était faire un master dans une école de design. Et en fait, c'est cette option, enfin, j'ai appelé plein d'UX designers, en fait. Et c'est cette option-là que j'ai choisie. Donc, en gros, je suis partie et pendant 1 an, j'ai repris mes études à Strat, école de design.
OK, donc un profil très créa.
Ouais, c'est ça. Et disons que c'est un peu cette expérience-là qui a fait que j'ai entrepris par la suite.
OK, super. The Good Habits, donc c'est, on va dire que c'est né en janvier 2020. C'est à ce moment-là que tu identifies le problème. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment
Ouais, alors c'est hyper long, en fait. Ça, c'est vraiment un projet qui est venu par petits pas, je dirais. Parce qu'en fait, c'était mon projet de diplôme à Strat. Donc, en gros... je suis partie vraiment d'un mémoire où en gros les designers nous disaient ben voilà, vous allez trouver un univers, c'est tout, un mot. Donc c'est parti d'un mot quand même, ce projet, ce qui est quand même hyper philosophique, je trouve. Et en fait, j'avais vraiment envie d'aller puiser au fond de ma mission de vie que j'aimerais trouver. Et en fait, genre c'est totalement drôle comme expérience. En fait, je trouvais pas d'idée et donc je suis allée dans des librairies là dans Paris et je me suis dit bah je vais marcher au hasard et je vais regarder les livres et genre tout ce qui me vient en tête, bah peut-être que ça me fera émerger quelque chose, tu vois, si mon regard se porte sur quelque chose, c'est que voilà. Et en fait, dans tous les domaines, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la section déco, dans la section philosophie et tout, à chaque fois, ça revenait sur la simplicité, la détox, la simplicité, l'essentiel, etc. Et je me suis dit, donc en fait, j'ai choisi le mot essentiel. Et à partir de là, du coup, ma problématique, etc., tout s'est enchaîné. Et donc en fait, ma vraie question, c'était aujourd'hui, comment peut-on revenir à l'essentiel dans nos vies? Et donc à partir de là, petit à petit, donc le mémoire, etc. Et j'ai développé un vrai projet design. Donc je suis partie sur une application. À la base, ça aurait pu être un jeu de société, ça aurait pu être des ateliers en physique, etc. Mais il s'est avéré que voilà, selon les recherches utilisateurs, on est parti sur quelque chose de digital. Et donc en gros, voilà, pendant les premiers mois de 2020, j'étais suivie, disons, par les experts en marketing, en design, etc., où je suis arrivée à un premier proto en avril 2020. Mais qui, à la base, c'était un projet étudiant, donc je n'étais pas au taquet, comme on peut être quand c'est un projet entrepreneurial. C'était en mode, j'étais vachement investie parce qu'en plus, c'était le confinement, donc j'avais que ça à faire, en fait, de mes journées. Puis en plus, c'était un projet qui, moi, me parlait aussi dans ma vie perso. Donc, comment je retrouve un peu des habitudes plus durables. Et donc, c'était ultra intéressant, mais j'étais pas dans l'optique. Enfin, j'étais un peu dans l'optique, OK, il y a le jury de diplôme en juin, après, c'est fini.
Est-ce que tu penses que, justement, cette quête de sens, elle est aussi beaucoup liée à nos générations et qu'on se pose de plus en plus cette question, justement, de faire des métiers à impact et d'avoir du vrai sens dans ce que tu fais au quotidien?
Ah oui, clairement. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui... à mon avis, touche toutes les générations, mais là, de plus en plus, en fait, cette notion d'existentialisme, vraiment, pourquoi on existe, à quoi on sert aujourd'hui, il y a tellement d'infos de partout, tellement de monde de partout, tout va tellement vite, tellement de superflu aussi, et c'est là aussi l'importance, du coup, de revenir à l'essentiel, c'est aussi pour pouvoir se retrouver face à soi-même et se dire, OK, à quoi je sers, quoi.
Carrément.
Du coup, ça se retrouve dans le métier, mais ça se retrouve aussi dans le quotidien. Moi, là où je voudrais agir avec The Good Habits, c'est plus dans le quotidien. Et après, bah, y a aussi dans son emploi, comment on retrouve du sens, etc., qui sont des choses différentes.
Donc en 2020, du coup, donc t'es mentoré pendant 6 mois par des experts de ton école. Fin d'année, tu fais tester l'app et tu développes un nouveau prototype. Comment est-ce que justement t'as conçu l'app un peu étape par étape avec en termes de fonctionnalité? Comment tu t'es dit bah ça va être intéressant? C'était quoi un peu le concept de départ et comment t'as fait ça en fait?
Bah, à la base, ce que j'avais fait, c'était vraiment, j'avais commencé vraiment par une recherche utilisateur. Après, enfin, tu vois, j'apprenais en même temps le métier du UX designer. Donc, ce qui était vraiment, j'apprenais, je testais. Donc voilà, j'ai rencontré plein de personnes en visio pour essayer de vraiment recueillir c'est quoi aujourd'hui les pain points dans la démarche des gens vers un mode de vie plus durable. À partir de ça, je m'étais formée en parallèle, genre, pour apprendre à faire des prototypes sur Adobe XD. Je faisais des challenges pendant le confinement. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, bah, il y a telle problématique, comment je vais pouvoir le transcrire dans un produit, un prototype. Et en fait, je m'étais inspirée de qu'est-ce qui se faisait dans des domaines différents. Aujourd'hui, par exemple, quand tu veux te mettre à la méditation, ben, on va pas te dire du jour au lendemain, tu deviens un grand, le Dalai Lama, tu vois. On va t'apprendre pas à pas à le faire. Et en fait, je me suis dit, c'est exactement pareil, désencombrer son esprit que désencombrer sa vie. Donc, en fait, je m'étais dit, OK, je vais regarder comment ils accompagnent les gens et moi, je vais le transcrire dans le domaine de l'éco-responsabilité. J'avais regardé aussi les apps de cuisine, tu vois. Donc vraiment, c'était genre comment, en fait, on n'était pas dans une innovation de produit, on était vraiment dans une innovation d'usage dans un autre secteur. Donc voilà, comme ça que j'avais commencé. J'avais fait un premier proto, franchement, quand je le regarde, c'était horrible maintenant. Et je l'avais fait tester, du coup, aux gens que j'interviewais, quoi. Voilà, mes premiers tests utilisateurs. Et après, j'avais un peu laissé ça de côté puisque du coup, c'était l'été. Et du coup, je cherchais un métier du UX designer. J'avais laissé de côté mon projet entrepreneurial. Enfin, c'était pas du coup un projet entrepreneurial. Et en fait, petit à petit, les gens m'ont dit, mais c'est trop bien. Il y a trop quelque chose à faire. Moi, j'aimerais bien avoir cette solution-là, etc. Et idem pour le jury devant qui j'étais passée, où il y avait la directrice de strat qui m'avait dit, non, mais vraiment, lâche pas. Essayer de co continuer ce projet-là. Et donc là, pendant l'été, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait, là-dedans. Et c'est à partir de septembre que je me suis dit, en fait, je vais continuer. Et là, du coup, la démarche, elle a été totalement itérative, c'est-à-dire que, en fait, je me suis fait mentorer par une experte en UX design. Donc, Nivine, je lui fais une petite dédicace parce qu'elle m'a vraiment aidée. Et en fait, elle m'a, enfin, moi, j'avais appris l'UX design dans les livres. Et elle m'a vraiment montré que c'était totalement différent. C'est-à-dire qu'elle a regardé mon proto et elle me dit, mais attends, avant de partir sur une solution comme ça, est-ce que tu t'es demandé, elle me dit, pourquoi ces couleurs? Elle me dit, et là, ce bouton-là, pourquoi il est là, il est à droite? Et ce mot-là, ce wording, pourquoi ça? Et en fait, genre, j'étais là, ben, parce que je pense à peu près par rapport à ce que j'ai eu de mes utilisateurs. Et en fait, c'était pas tout ça. En fait, je me suis rendu compte que chaque chose avait un sens et venait vraiment de ce que j'avais appris des gens. Et donc, à partir de là, j'ai tout recassé. Je suis repartie en recherche utilisateur pendant 2 mois. J'ai dû appeler 50 personnes où j'ai échangé avec eux pendant 1 heure au moins chacun. Et ça a totalement changé encore le concept. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de dimension communautaire dans l'application à la base. On était vraiment plus sur, tu sais, des défis, genre étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient beaucoup plus dans une démarche plutôt erratique. En mode, bah, je vais peut-être faire un truc une fois, puis après, pendant 2 semaines, je vais rien faire, parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie, puis après, je vais revenir. En fait, vraiment dans une logique plus d'inspiration, comme le font Pinterest ou Instagram. Aujourd'hui, c'est ça l'usage un petit peu moderne, enfin, que les gens ont des choses. Ils ont beaucoup de mal tu vois, à suivre, en fait, une espèce de
Ouais,
trame.
une to-do.
Voilà. Et donc, j'ai totalement rechangé, en fait, l'expérience de l'application. Donc, je suis repartie sur plutôt des wireframes que j'ai fait à la main, etc. Ou alors j'ai fait des ateliers avec les gens pour savoir si vraiment l'expérience était bien ou pas. À partir de ça, j'ai refait du coup un proto interactif. Et après, je me suis dit, OK, bah là, j'ai un prototype, mais je n'ai pas de développeur. Voilà la vraie question. Du coup, je savais pas trop comment faire et puis j'ai rencontré j'avais deux de mes potes de Nice qui ont lancé l'application Robe. Je sais pas si tu connais.
Non.
Bon bah voilà, ça fait leur pub en même temps. Et qui m'ont dit mais attends, Casson, pourquoi tu le fais pas en no code? Et donc moi j'étais là, mais genre, je sais pas, c'est quoi une app? Est-ce que ça peut être fait en no-code? Est-ce que moi j'avais vraiment cette question de me dire, ok, si je fais un truc en no-code, est-ce que ça sera possible ensuite d'en faire une vraie application? Enfin, tu vois, est-ce que je vais devoir, il y a plein de gens qui vont s'inscrire, est-ce que après je vais devoir changer, me mettre en code et du coup perdre tous ces gens-là, tu vois, dans l'expérience, ça va la casser, etc. Et après, en fait, je me suis rendu compte que le no-code c'était une solution géniale pour faire un MVP. Parce que, en gros, j'ai totalement la main sur mon produit. Je vais pas payer 2000 euros pour que quelqu'un change un bout en place. Et puis surtout, en fait, ça coûte rien à développer. Il suffit juste de, voilà, d'y aller, d'apprendre. Et donc là, en fait, je me suis formée grâce à la communauté Otho. O-T-T-H-O. Donc, qui fait, en fait, des bootcamps et plein de vidéos tutoriels pour apprendre le no-code. Et donc, en fait, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça et je suis partie du coup d'une page blanche et j'ai fait toute la version bêta en no code.
Trop cool. Bah, c'est bien parce que tu t'es formée en UX et ensuite en no code et
exactement.
Pour maîtriser à 100% ton projet dès le départ, tu vois. Et ça c'est vraiment cool de faire ça. En plus, ma question d'après, c'était justement sur le développement en no code. C'était comment t'as découvert le no code et pourquoi t'as fait ce choix pour développer l'app. Et en fait, c'est hyper clair. C'est quand t'as pas le budget ou ni l'envie aussi de faire appel à un développeur et toutes les contraintes que ça a derrière aussi, surtout ouais. Pour le tout démarrage d'un projet, bah c'est clair que c'est mieux de tester effectivement. Et en plus, le no-code, c'est des plateformes, etc., qui n'existaient pas il y a quelques années et qui aujourd'hui permettent effectivement de faire des choses de ouf, je dirais pas assez facilement parce qu'il faut se former quand même, mais assez rapidement, on va dire, tu vois, et sans connaissance technique.
Bah, c'est ça. Après, et en plus, ce que je trouve génial, c'est qu'aussi, du coup, ça m'a appris vraiment la logique. Bon, je pense que là, les vrais codeurs vont me taper dessus, ils vont me dire « mais non, mais pas du tout ». Mais en vrai, tu vois, savoir faire une base de données, connaître les workflows, les logiques un peu conditionnelles qui existent, etc. Ben ça, rien que de comprendre ces choses-là, ben ça fait que peut-être un jour, si je vais basculer sur un truc en code ou que je vais que mon associé aura un profil technique, je vais peut-être plus comprendre ce qu'il est en train de me dire. Parce que quand tu mets les mains tout de suite toi dedans et que t'es là genre… Ah mon Dieu, enfin tu vois, j'ai dû faire des arborescences en mode ok, alors là il y a plusieurs données, des données qui vont s'intégrer comme ci, comme ça. Quand t'as fait une école de commerce, tu sais pas du tout ça que ça existe. Et moi je trouve ça juste incroyable. Et puis même la fierté au-delà de ça, de savoir faire ça. Enfin je trouve ça hyper cool. En fait t'as l'impression qu'après tu pourrais faire n'importe quel site avec une solution en no-code.
Carrément. Pour revenir un peu au concept de l'app, c'est vrai que ce que tu dis sur la présentation de The Good Habit, c'est le fait que les gens, quand ils cherchent des conseils en éco-responsable, ils vont soit sur des groupes Facebook, soit sur des médias, ils vont chercher sur Google, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de plateforme qui le permet, et c'est ce à quoi répond The Good Habit. Comment le projet a évolué ensuite, justement, en 2021 notamment ?
En 2021, c'est le moment où j'ai décidé de le faire, le no-code. Donc, on était en mars. Donc, voilà, je l'ai fait pendant plusieurs mois. En parallèle, ça a évolué dans le sens où j'ai gagné le concours Femmes du numérique qui était organisé par La Poste. En gros, qui m'a permis, du coup, d'organiser une campagne de crowdfunding. Donc, ça, disons que ça a été un pilier plutôt comme. Où là du coup j'ai préparé toute la campagne qui a eu lieu en septembre et mine de rien ça prend vachement de temps, surtout pour une application, voilà, vraiment attention pour les personnes qui veulent faire des campagnes de crowdfunding sur des produits digitaux, c'est extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui les gens ils participent à des campagnes parce qu'ils ont envie de recevoir des shampoings, parce qu'ils ont envie de recevoir des déodorants, des choses comme ça, mais quand il n'y a pas de contrepartie matérielle, c'est très difficile de faire une campagne. Et il faut vraiment trouver les bons arguments ou alors du coup avoir être sponsorisé par un appel à projet comme moi j'ai eu la Poste. Voilà, ça c'est juste un petit conseil, mais après voilà, ça permet de voir s'il y a vraiment un intérêt de la part des utilisateurs. C'est un peu comme une landing page finalement. Ça permet de faire exister le projet aussi, parce que mine de rien, ça c'est une vraie difficulté moi que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé un peu dans l'ombre au départ et en fait les gens me disaient, mais enfin, vu que tu vois ton application n'existe pas, ben tu n'existes pas en fait. Et du coup, tu vois, c'est dur d'exister. Et je trouve qu'une campagne de crowdfunding, ça permet d'exister avant même de lancer un produit. Bon, moi, il s'avère que j'ai lancé la version bêta en même temps, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment utile pour ça. Donc voilà, 2021, j'ai fait ça. J'ai intégré l'incubateur Willa, qui s'appelait Paris Pionnière avant. Donc là, tout récemment, depuis 2 semaines à peine. Donc ça, c'est vraiment une grosse étape pour moi parce que j'étais toute seule. Et juste de pouvoir être avec des gens, d'autres entrepreneurs, c'est vraiment top. Et dernière petite info là, de 2021, j'ai gagné un autre concours. Le concours Google Changemakers.
Ok, bravo, super.
Donc un peu voilà, j'ai appris ça tout récemment aussi avec super grande surprise. Donc en gros, on va être accompagné par des mentors pour nous aider à donner de la visibilité. Et en fait, je sais pas trop, je vais avoir le premier call cet après-midi, donc j'en sais pas plus.
Tout frais.
Mais en tout cas, il y aura une vidéo qui sera postée le 2 décembre sur la chaîne Google France, sur la chaîne YouTube.
Super, génial. En termes de visibilité, c'est ouf.
Pour parler du projet, donc on sera seulement 7 projets et donc le gagnant aura l'accompagnement Google for Startup.
Ok, super. Bah, écoute,
voilà, donc j'en saurai plus. j'en saurai plus bientôt.
Pour revenir à la campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank, comment ça s'est passé justement étape par étape au moment où effectivement t'as gagné le prix La Poste du numérique? Déjà, comment est-ce que tu l'as ressenti au moment où t'as remporté ce prix? Et après, toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui de cette campagne.
Alors, donc le concours La Poste, bah, là encore, c'était grâce à mes amis de Rob. Donc vraiment, tout l'intérêt en fait, de s'entourer d'autres entrepreneurs, parce qu'à chaque fois, ça permet d'avoir des opportunités de dingue. Qui m'avait parlé du coup de... Ils avaient fait une campagne aussi sur KissKissBankBank. Donc je m'étais rapprochée de KissKissBankBank et de leur coach en fait qui les avait accompagnés. Cette personne m'avait dit « Ah, il y a un appel à projet La Poste pour les femmes du numérique, tu devrais postuler. » Et j'avais postulé. Et en fait, donc du coup, c'était sur dossier. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, en gros, il y a eu un concours de vote, c'est-à-dire je devais inciter les gens à voter pendant une semaine pour moi, ce qui est hyper fatigant parce qu'on a l'impression de harceler tout le monde.
Le spam.
Vote pour moi, vote pour moi. Je pense que je me présenterai pas au présidentiel, tu vois, parce que c'est sympathique. Bon, bref, en tout cas, c'était quand même génial parce que du coup, j'ai rencontré d'autres femmes entrepreneurs dans toute la France, ce qui était super, super cool. Et donc, en gros, on a eu l'été pour préparer la campagne. Donc, c'est arrivé vachement vite finalement parce que moi j'avais plein d'autres choses à gérer que juste faire de la com sur la campagne, tu vois, ça c'est venu d'un coup et ça faisait pas partie de mes plans en fait de développement. Et je dirais que ça a été vraiment de travailler le plan de communication, établir en fait moi le truc que j'avais bien fait de faire avant, c'est-à-dire que dès que je rencontrais des gens qui me disaient qu'ils étaient intéressés pour le projet ou avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger ou juste des cercles de communauté, je mettais tout ça dans un Excel avec le moyen de contact et je me disais bon bah ça pourra toujours me servir. Bah franchement ça m'a fait gagner un temps fou parce que du coup j'avais exactement les personnes à qui contacter lors de la campagne. Parce qu'en gros, on doit établir des cercles différents. Tu sais, au début, tu vas contacter que tes proches pour une campagne de crowdfunding. Ensuite, tu vas contacter des cercles, des relations plus deux, et ensuite plutôt des médias. J'avais fait ça. Et ensuite, ça a été vraiment tout ce qui était, tu sais, l'infographie de la page, le tournage de la vidéo. Donc moi, franchement, ma plus grosse difficulté, c'était la vidéo. Parce qu'en fait, c'est facile de faire des choses que je maîtrise. Tu vois, faire une infographie, faire de la com, j'aime bien faire. Et je sais comment faire. Mais par contre, une vidéo, je ne sais pas faire. Enfin, je ne savais pas faire un
storyboard. Et pourtant, t'es super à l'aise sur la vidéo.
Oui, mais ça entre parler, juste présenter et faire le storyboard de la vidéo.
Oui.
Qu'est-ce que je vais dire? Le tournage, la logistique, trouver un freelance qui va faire la vidéo. Tout ça, en fait, c'est vrai, c'est une gestion de projet en soi, quoi. Et franchement, tu vois, par exemple, les plans, je devais réfléchir à, OK, il faut qu'il y ait tel texte à ce moment-là, il y aura un plan comme ça, il y a un plan qui va zoomer, qui va dézoomer. Ça, franchement, c'est des compétences qu'il faut avoir.
Bien sûr.
Moi, j'ai la chance que mon copain adore le cinéma. Et donc, du coup, il m'a aidé, en mode, OK, là, on va faire un plan américain, là on va faire un plan qui va partir vers la droite et tout. Et moi j'étais là genre, ok, je ne comprends rien à ce que tu dis, mais on va faire ça. Et donc c'est comme ça que s'est fait la vidéo. Après j'ai cherché, en plus j'étais là, est-ce que je tourne la vidéo toute seule? Est-ce que je, tu vois, parce que ça, ça a un prix quand même de faire appel à un freelance. Et donc j'étais là, ok, est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo de qualité? Est-ce que je pourrais pas le faire moi-même finalement, parce que les iPhones ont des super... une super qualité. Est-ce que je peux pas demander à des potes de potes, etc. J'avais aucune idée en plus de combien ça pourrait coûter de faire une vidéo. Et donc, en gros, enfin, je me suis prise vraiment au dernier moment. Franchement, j'ai fait ça fin août.
Ouais, en plus, il y avait une question de timing aussi, j'imagine.
Il y avait une question de timing parce qu'on devait lancer toute la campagne la semaine du 20 septembre. Et donc, sauf qu'en fait, il y avait l'été et moi, j'ai un peu lâché du lest cet été parce que j'avais besoin de, voilà, après une année un peu compliqué. Et du coup, j'ai fait ça pendant les vacances, quoi, au dernier moment. Et entre le moment où j'ai fait le storyboard, où j'ai trouvé le freelance, etc., il a dû se passer une semaine à peine. Donc voilà, ça s'est fait assez rapidement. J'ai fait le tournage le 2 septembre, à peine quand je suis rentrée à Paris. Une journée de tournage, épuisant. Épuisant de tourner. Et en plus, tourner dans la rue avec les gens qui regardent et tout, faut vraiment être prêt, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent regarder derrière, faire des commentaires et tout. On se rend pas compte, mais par exemple, la première scène de la vidéo, où à peine je suis en train de boire une tasse de café, elle dure 5 secondes. On a mis une heure pour tourner.
Ouais, ça m'étonne pas.
Une heure. Et en fait, mais après, je trouve ça génial, l'entrepreneuriat, c'est parce que une expérience comme ça, je sais pas si j'aurais pu la vivre, tu vois, en ayant les anciens métiers que j'avais, tu vois. Là, j'avais l'impression d'être la star d'un jour. Alors que c'est un truc, tu vois, qui est assez, qui est génial à vivre, quoi. Et donc voilà comment ça s'est fait. Et ensuite, ben, c'est que de la com, hein.
Ouais.
La
Et
com,
donc
c'est
cette
vraiment
campagne,
ça.
elle est quasi à 150% de l'objectif atteint. Au moment où on enregistre, d'ailleurs, il reste un jour pour mettre dans la campagne. Donc malheureusement, les gens qui écoutent ce podcast ne pourront pas, à part s'il y a peut-être une prolongation. Je sais pas si c'est possible.
Ouais, non, je pense pas qu'il y aura de prolongation, donc bon, c'est pas grave.
Mais voilà, c'est pas grave. C'est quoi pour en finir avec The Good Habits, c'est quoi tes futurs objectifs pour ce projet?
Alors, mes futurs objectifs, donc je dirais que j'ai trois piliers. Où je vais travailler d'ailleurs du coup avec Willa, l'incubateur, c'est vraiment un équilibre à gérer entre la qualité de mon produit, donc l'application, la taille et l'engagement de la communauté. Donc vraiment travailler sur l'acquisition et la rétention, et aussi les premiers partenaires pour vraiment prouver le business model. Donc voilà, j'ai trois axes sur lesquels je vais vraiment travailler les prochains mois.
Super. Peut-être aussi une partie entreprise. Je pense qu'effectivement, cette typologie de projet, ça peut être. Enfin, des entreprises peuvent être hyper intéressées sur leur RSE, notamment,
Ouais.
de sensibiliser leurs collaborateurs. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi B2B.
Oui, bah, c'est ce que beaucoup de personnes me disent. Pour l'instant, moi, je me suis axée sur le B2C. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises qui me disent, ah, j'aimerais bien implanter ce type de solution dans l'entreprise pour les collaborateurs. Donc écoute, c'est une opportunité à envisager pour les prochains mois.
Clairement. On va passer maintenant à la partie un peu premier bilan, même si l'aventure est très récente. C'est quoi le moment qui a été le plus difficile pour toi sur cette première année, on va dire?
Alors, je dirais qu'il y a eu plein de moments difficiles. Le moment le plus difficile, je pense, mais du coup, ça touche à quelque chose de plus émotionnel. Je dirais que c'est le, et ça peut paraître contradictoire, mais c'est le moment où j'ai annoncé que je me lançais dans ce projet-là. Donc, c'était en mai, où j'ai dit, voilà, je vous annonce mon projet, c'est The Good Habits, la landing page est là, vous pouvez vous inscrire et tout. Parce qu'en fait, ça faisait tellement de temps que j'y pensais dans l'ombre, que du coup, il n'y avait pas de pression. Et ce moment où, tu vois, tu te lances, et que du coup, les gens attendent de toi vraiment quelque chose, plus moi, j'ai des exigences hyper élevées envers moi-même. Je dirais que ça, voilà, ça m'a mis une pression, genre pendant 2 semaines, j'étais vraiment pas bien, je dirais. Après, c'est bien sûr c'est parti, mais c'était, je dirais, le moment le plus difficile. D'autant plus qu'en fait, il y a une espèce de frustration, je trouve, parce que je lançais. En fait, je suis toute seule, donc je dois passer très peu de temps sur à peu près tous les domaines, que ce soit le community management, la com, le produit, etc. Et en gros, je suis pas satisfaite de tout ce que je fais. Et du coup, j'ai l'impression...
Ça s'appelle le perfectionnisme.
J'ai vraiment des gros problèmes là-dessus. J'ai toujours été comme ça. Ce qui ne va pas du tout dans l'entrepreneuriat, mais bon, c'est pas grave, on apprend. Hein. Et du coup, ouais, c'était vraiment ce truc-là de me dire, je montre quelque chose qui n'est pas du tout la vision que j'ai de The Good Habits, tu vois. Comme là, par exemple, j'ai lancé la bêta, mais c'est vraiment tellement MVP, c'est tellement genre un dixième, enfin même pas un centième de ce que j'imagine plus tard si j'avais les moyens financiers de temps. Voilà. Donc, c'est cette espèce de frustration qui est difficile à vivre, je trouve.
Et deuxième question, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui sur ton projet ?
En vrai, je suis fière juste d'avoir accompli tout ça en termes de travail et de l'avoir fait toute seule et sans... sans dépenser des milliers d'euros. C'est-à-dire d'avoir mis la... De vraiment... D'avoir mis la...
De t'être lancée et de l'avoir fait aussi à 100%, tu vois.
Ouais, c'est ça. C'est ça. D'avoir vraiment travaillé pour arriver à sortir des choses qui plaisent aux gens.
Ça aurait très bien pu être un projet étudiant qui n'allait pas aboutir comme des milliers de projets étudiants qui n'ont jamais abouti.
C'est
ça. Au final, tu as pris la décision de te lancer et tu as quand même fait beaucoup de choses toute seule, enfin la totalité des choses d'ailleurs toute seule. Et ça, c'est hyper gratifiant, je pense.
Ouais, c'est ça. Ouais, d'être allé au bout, même si j'ai des doutes, même si je suis pas sûre.
C'est normal. C'est normal. Ce serait pas normal de pas en avoir. On passe maintenant à l'avant-dernière partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Est-ce que potentiellement il y a une rencontre qui a marqué cette aventure ?
Très franchement, donc je reparle de Nivine qui m'a accompagnée en UX design. Je dirais que c'est vraiment une rencontre qui m'a fait prendre une autre perspective en fait sur ce sujet-là, en me disant ok, arrête de rester tout le temps le nez dans ton produit et peut-être repars en arrière, prends un peu du temps. En fait, c'est ça, elle m'a dit, prends ton temps. Ce qu'on dit jamais dans l'entrepreneuriat, c'est toujours vas-y, dépêche-toi, quick and dirty, nanana et tout.
Faut
ça.
Exécuter vite.
Voilà, exactement. sauf qu'en fait, parfois, ça a du bon aussi de prendre du temps. Ouais.
Très clair. Est-ce que tu peux me citer une personne, une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui ? Pas forcément que tu connais, ça peut être que tu connais, ça peut être une ou un entrepreneur, un artiste comme...
Donc, une personne qui m'inspire, donc c'est Laurie Tinman, parce que juste dans sa vision de le bien-être pour soi et pour la planète. C'est-à-dire qu'elle montre que prendre soin de la planète, c'est d'abord prendre soin de soi. Et c'est totalement la vision que j'essaie de montrer aux gens, c'est que moi, l'application The Good Habits, elle n'est pas là pour sauver la planète. On n'est pas du tout dans ce positionnement-là. Moi, mon positionnement, c'est comment je montre aux gens qu'on peut vivre mieux avec moins, en se faisant plaisir, en prenant soin de soi, donc de manière très égoïste finalement, mais que aussi ça peut être bon pour l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc, cette personne m'inspire vraiment beaucoup.
Très bien. En plus, elle est bretonne, donc étant rennais, je ne peux qu'approuver finalement.
Et d'ailleurs, si elle écoute ce podcast, j'aimerais beaucoup qu'elle soit marraine de mon application.
Bah, écoute, le message est passé. Et la dernière question sur cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer, qui hésiteraient ?
Bah, franchement, moi, je dirais de pas douter, de se lancer, de faire des choses et petit à petit, de voir que finalement, ça fonctionne. Les petites choses qu'on fait, les petits pas. Le conseil que je dirais aussi, c'est vraiment de s'entourer de gens et de parler de son projet. Souvent, on a tendance à dire il ne faut pas parler de ce qu'on veut faire. Mais en fait, en aucun cas, ça doit rester secret. Au contraire, c'est en parlant qu'on va voir si ça plaît ou pas et que ça va nous permettre d'avoir des opportunités. Moi, les choses qui m'ont le plus servi quand j'ai décidé de me lancer, c'est d'en parler. Et en fait, les gens autour de moi m'ont apporté plein d'opportunités que je n'espérais même pas. Et en fait, c'est vraiment les gens qui, en parlant, c'est vraiment les gens qui t'aident le plus à avancer dans ton projet.
L'importance des rencontres et de l'entourage, quoi.
Exactement.
On va passer à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions rapides. On a toujours le temps, évidemment. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Pas forcément lié sur l'entrepreneuriat, mais quelque chose qui t'a marqué.
Ouais, j'ai un livre à te conseiller. Donc c'est un livre qui a été fait par Thierry Libert, donc qui est conseiller. Attends, faut que je retrouve le nom du livre. Ah voilà, il est conseiller au comité économique et social européen. Et son livre, ça s'appelle Des vents porteurs. Comment mobiliser enfin pour la planète. Et en fait, je trouve ça hyper original parce qu'il montre qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème dans la communication sur l'écologie parce qu'elle est vraiment linéaire, elle est descendante, elle est très technique et très alarmiste. Et en fait, il montre que, ben, du coup, il faut totalement repenser cette communication-là. Et c'est justement ce que j'essaie de faire dans The Good Habits, c'est comment je relie les enjeux climatiques à notre vie quotidienne sans pour autant faire référence à des conséquences spatio-temporelles qui sont hyper lointaines, genre tu vas agir parce que ça va réduire de temps de CO2 en 2150, tu vas agir parce que tel coraux, ça va avoir un impact sur tel coraux à des milliers de kilomètres de chez toi. Et ça n'engage pas les gens en fait aujourd'hui. Voilà, donc c'est comment relier les enjeux écologiques à un peu ta vie ici et maintenant. Et donc je trouve cet ouvrage hyper, hyper original.
Super intéressant. En plus, c'est vrai que effectivement, les coms liés à ça, c'est plus sur le fait de culpabiliser, alors qu'on sait très bien que les sensibilisations à tout ça, elles doivent se faire avec bienveillance et pas en culpabilisant les gens, quoi.
Après, je pense que les deux sont pas, les deux peuvent être complémentaires.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui
avec intelligence.
Voilà, ouais. Avec intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui changent parce qu'ils ont vu un documentaire choc, parce qu'ils ont lu un article qui les a vraiment sensibilisés. Mais je pense que voilà, il faut un petit peu des deux. Parce que aujourd'hui, moi, je vois tous mes potes qui sont hyper, pas réfractaires, mais genre qui s'en foutent un peu de l'environnement. Mmh. Si tu leur dis, si tu fais pas ça, il va y avoir un réchauffement de tant de degrés, mais franchement, ça leur passe, mais au-dessus, c'est impressionnant. Alors si tu leur dis change un peu tes habitudes parce que ça va faire du bien pour ta peau, parce que tu vas être plus stylé dans des habits de seconde main, etc. Bah là, on va leur parler à des choses qui les touchent, tu vois, vraiment personnellement.
Ouais, je suis d'accord. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle ?
Racheter n'importe quelle boîte sans limite financière. J'adore la boîte Kitchen Stories qui permet de s'inspirer sur dans la cuisine. Et je trouve le design hyper bien fait, comme je suis hyper sensible au design.
Donc tu rachètes l'app pour faire The Good Habits.
Exactement. Après, c'est pas si elle marche très bien, cette application, mais en tout cas, je l'adore.
Ok. Et la dernière question de ce podcast et de tous les épisodes, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Ah bah moi, je peux te conseiller mes amis de Rob, donc David Atlan et Thibaut Arnoux. Je sais pas si tu l'as interviewé, mais du coup, Maud Caillot de Gringot.
Pas encore, mais elle est sur ma to-do list, ça c'est sûr. Okay.
Et bah voilà.
Super. Merci beaucoup, Cassandre, pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça a plu aux gens qui nous ont écoutés. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. N'hésitez pas quand même à aller voir The Good Habits, puis justement à rajouter des tips éco-responsables sur cette app.
Ouais, bah moi, la meilleure chose qu'on pourrait faire pour m'aider, et la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est, vu que c'est une version bêta, de m'envoyer des retours utilisateurs, même les feedbacks les plus... les plus négatifs, justement, c'est ceux qui vont me permettre d'avancer. Donc, c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire pour m'aider.
Eh bien, écoute, le message est passé. Donc, merci à toi et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur.
Merci beaucoup, François.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.